Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro et on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonjour Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On continue comme chaque semaine à survoler la paracha de notre semaine, ce passage de la Torah que nous lisons dans nos communautés. Et là, on arrive à celle qui s'appelle Ré'é. Alors, énormément de choses, comme d'habitude, mais il y a un point qui vous a plus particulièrement interpellé cette semaine, c'est celui qui parle de l'homme qui fait fauter les autres. Alors, je me souviens, vous voyez, qu'il y a, je crois, une quinzaine de jours, vous nous avez parlé de l'importance qu'il y a de prendre soin à soi. Et oui, je m'en souviens. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, mais aujourd'hui, vous allez parler d'un point qui est important, c'est que celui qui fait fauter les autres, peut-être que c'est même encore plus grave que s'il le fait sur lui-même. Alors, je prends des libertés avec votre cours, mais faire fauter les autres, pour la Torah, c'est le maximum de l'interdit. Alors expliquez-nous pourquoi.
Alors c'est vrai qu'on est dans une paracha dans laquelle on parle du Messie Temediar, c'est-à-dire on parle de celui qui va nous pousser à aller vers d'autres croyances, donc d'abandonner la Torah et les mitzvot. Et à ce sujet, on va lire d'ailleurs dans quelques instants les versets, la Torah parle de cette personne d'une manière extrêmement dure. C'est assez impressionnant. En introduction, j'aimerais citer un texte du Talmud qui nous cite un verset dans lequel on nous dit « Vayelech Elisha Damasek ». On nous parle à un moment de Elisha. Elisha, c'est l'élève, le successeur, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, en tout cas, c'est l'élève par excellence de Eliyahu Hanavi, du prophète Élie, et on dit qu'il part à Damas. Et le Talmud dit « Bon, mais il est parti faire quoi là-bas ?» Et on nous dit qu'il est parti le Harazir Gehazi pour récupérer un homme qui s'appelle Gehazi. Gehazi, on aurait dit aujourd'hui, c'est un génie. Mais c'est quelqu'un qui a totalement tourné Kazakh et il veut quand même le ramener. Il va vers lui et il lui dit « Chazor Bocha, reviens à l'intérieur de toi-même ». La terminologie est intéressante, c'est-à-dire « Réinterroge-toi par rapport à toi sur ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait ». Et Gehazi lui dit « Non, laisse tomber, ça ne sert à rien ». Il dit « Parce qu'au fond, j'ai fait fauter les autres et non, terminé ». Et le Talmud s'interroge et dit « Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi ?» Et alors, il y a trois versions. Et dans les deux premières, eh bien, on nous décrit comment à l'aide de sortilèges, il a fait croire qu'il y avait d'autres divinités en faisant parler des idoles ou des veaux, toutes sortes de choses. Mais la troisième, c'est quoi? Et c'est celle qui, je n'ai pas envie de dire, est retenue parce que les deux premières sont exactes, mais la troisième, c'est celle qui est vraiment la plus forte. Puis on nous dit qu'il s'était mis devant la porte de la maison d'études et il n'y pénétrait pas. En deux mots, Gehazi a tout fait pour que les gens ne pénètrent plus le Beth Amidrash, la maison d'études. Gehazi, c'est un génie. Si le génie est dehors, c'est dans la série circulaire, il n'y a rien à voir. J'ai envie de dire que Gehazi, c'est celui qui est connu dans les médias, c'est celui dont on parle, c'est celui dont la parole a une force et qui, à travers quelques mots, eh bien, peut amener les gens à tourner le dos à la Torah et aux mitzvot. Et Gehazi dit ben, « Je sais très bien ce que j'ai fait, donc c'est plus possible ». Et on se retrouve donc dans cette problématique-là de qui citera. Le texte nous dit « Lorsqu'il va chercher à nous séduire, à nous pousser et de nous dire « Allons vers d'autres divinités qu'on n'a pas connues ». Alors, Rashi sur place nous dit « Asher lo yedata davar zegnai gadol ulocha ». Il dit « Cette chose, c'est immonde, c'est moche, c'est horrible. Pourquoi ?» Parce que les nations du monde ne mettent pas de côté ce qu'on leur a transmis. Et celui-là te dit « Abandonne ta tradition ». Littéralement, comme dit Rashi, Azov et mashemasru lochavotecha. Abandonne ce que t'ont transmis tes ancêtres, tes parents. Or, mon père a reçu de son père, qui a reçu de son père, l'importance du Shabbat, l'importance des téphilines, l'importance de la cacheroute, l'importance du mikvé, l'importance de ne pas se mettre en colère, l'importance d'être droit, l'importance d'être honnête, l'importance d'être juste, l'importance de toutes ces mitzvot. Ils n'auront pas transmis des grands principes philosophiques. Mashé masrou lecha avotecha. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis? La valeur et l'importance. Et celui-là vient et dit, allez, mets de côté, va vers autre chose, va vers, allez, une vision peut-être différente dans laquelle le mot judaïsme est encore présent, mais ça s'arrêtera là. Et là, les versets après sont bouleversants, puisqu'on nous dit à propos de cette personne, l'otovelo, l'otishmaela, v'lotachosenchala, v'lotachmo, v'lotachasela. Rashi nous dit, ne cherche pas à l'aimer. Clairement, n'écoute pas ses supplications au moment où il doit être sanctionné. N'aie pas pitié de lui. D'aucune manière, le tafor misruto ne cherche même pas à trouver aller des circonstances atténuantes. C'est pas possible. C'est terrible parce que on a ici un verset qui est d'une violence inouïe. Inouïe parce que dans toute la Torah, on voit qu'on doit chercher à juger positivement, on doit chercher à pardonner. On voit même que combien de textes nous disent que Dieu veut montrer à l'individu qu'il peut faire tchouva, surtout il peut se repentir. Mais là, on a quelque chose de dramatique. Parce que à la limite, que l'individu soit pour suivre ses appétits, soit parce qu'il a décidé de ne pas croire, au fond, il a décidé de croire que Dieu n'existait pas, il a décidé de croire que la Torah n'était pas exacte, n'était pas révélée, c'est une croyance. Alors on n'a pas envie de faire les mitzvot. Ok, d'accord, c'est ton choix, mais pourquoi tu entraînes les autres? Pourquoi tu pousses les autres à la quitter? Pourquoi tu pousses les autres à avoir un regard négatif par rapport à elle? C'est terrible, c'est bouleversant. Et c'est sur cela que la Torah nous dit « attention ». Ça, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce que tu gagnes au fond là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus d'amener d'autres personnes à abandonner la Torah et les mitzvot? Éventuellement, ça te rassure, parce que si d'autres personnes l'ont abandonné, alors tu te sens mieux, parce que tu n'es plus seul dans ton histoire, il y en a d'autres qui t'accompagnent. Mais quelque part, c'est pas possible. Parce que l'autre est là, et pourquoi tu le tires vers le bas, en prétextant bien sûr que tu veux lui donner une forme nouvelle de liberté et d'épanouissement et de bien-être. Ce texte, pour tout vous dire, me bouleverse parce qu'il nous ouvre à la vigilance extrême que l'on doit avoir de ne pas amener des personnes à se détourner du chemin de la Torah. Et évidemment, je pense qu'il y a une chose qui doit au quotidien nous interpeller, c'est ce fameux texte de Maïmonide. Le Rambam nous dit que le propre du Talmid Chacham, le propre du sage, du maître de la référence, c'est d'avoir un comportement humain tel que lorsque d'autres le rencontrent, ils ont envie de découvrir cette Torah qu'il représente, parce que tout simplement, elle s'exprime à travers un modèle de fonctionnement dans la relation aux autres, dans la relation au monde, dans une forme d'élégance qui nous donne envie de la découvrir. Et malheureusement, le Rambam nous dit, et lorsqu'on fait le contraire, on peut amener des personnes à fermer la porte ou alors ne pas vouloir l'ouvrir. C'est quelque chose, très sincèrement, de terrorisant. Vous allez me dire, vous angoissez pas, évidemment, mais de réaliser ô combien on a une responsabilité, chacune et chacun d'entre nous, de faire en telle sorte de ne pas fermer la porte, évidemment de l'ouvrir. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais on peut avoir une posture, on peut avoir une attitude, on peut avoir une remarque. Et on ne réalise pas que la personne qui est en face de nous, à travers cela, risque de ne plus avoir envie de découvrir ce que la Torah a à nous dire. Parce que tout simplement, une porte s'est fermée devant elle. Alors, Néanmoins, lorsque on est soi-même confronté à cela, on a le droit de réfléchir. Vous avez sûrement entendu parler d'Ourizoar. Ourizoar, c'était, j'ai envie de dire, ce coluche israélien tellement connu qui a fait un retour à la Torah. Et il relate que lorsqu'il a commencé à faire un retour à la Torah au tout début, un jour il s'est retrouvé dans un bus en Israël. Et puis il voit là-bas une famille religieuse, mais j'ai envie de dire malheureusement le prototype de ce qu'il n'avait pas envie de devenir. C'est-à-dire malheureusement, alors pourquoi on n'en sait rien, mais ça se dispute, ça crie, ça se comporte mal, enfin. Et il est assez bouleversé. Alors quand il s'est retrouvé à Jérusalem, auprès de la personne avec laquelle il avait commencé à étudier, il lui a fait part de cette expérience. Et l'autre lui a dit, évidemment, si tu cherches les Juifs, ça sera compliqué. Si tu cherches la Torah, ça sera plus simple. C'est vrai. Mais néanmoins, cette vigilance, on doit l'avoir. Et aujourd'hui, on doit vraiment s'interroger sur, malheureusement, ceux qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours, ont envie d'amener d'autres personnes à fermer la porte à une Torah qui pourrait les nourrir, en créant une vision inexacte de ce que la Torah dit dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est quelque chose quand même qui n'est pas simple. On va retrouver malheureusement cela un peu plus tard dans les versets, à travers ce que l'on appelle l'épisode de Ir HaNidachat, c'est-à-dire d'une ville aussi qui, à un moment, décide dans son entièreté d'être dans une forme de rupture. Et la Torah parle là aussi extrêmement durement. Alors à nous, évidemment, de savoir là où on en est, chacun d'entre nous, dès lors que pour nous, la Torah représente quelque chose, d'essayer de faire en telle sorte que « Chez Yeshem Shaemaim mit Ahev Aliatra » que le nom d'Hachem puisse être aimé à travers nous. Et on ne peut pas se rendre compte ô combien parfois un mot gentil, une manière d'être positive, eh bien, peut créer des ouvertures qui permettront à des personnes de découvrir les trésors de ce que la Torah leur proposait et leur permettre à travers cela de se construire et justement de s'inscrire à nouveau comme étant des dignes successeurs de leurs ancêtres pour former un nouveau maillon fort de cette chaîne exceptionnelle de la Torah et des Mitzvot.
Vous avez utilisé le mot terrorisant et c'est vrai que il y a quelque chose de particulier, c'est que on peut faire tchouva sur un truc qu'on a fait soi, mais une fois qu'on a parlé à d'autres, qu'on les a convaincus, dans un groupe d'amis, quand on est jeune, quand on a 15-16 ans, on peut faire plein de choses. Moi, parler à la radio, je peux dire des bêtises, des choses qui repoussent les gens. Comment tu peux faire tchouva à quelqu'un d'autre, c'est fini, quand c'est dans ses mains, c'est plus à toi, tu peux plus rien faire. Ça fait très très peur.
C'est vrai, en même temps, il faut avancer. Et puis, d'un autre côté, nos maîtres disent que lorsque on essaie de tout faire de manière intelligente pour que les portes restent ouvertes, eh bien, évidemment, ça fait un tikkun, ça répare. Et puis, on a aussi le droit de faire le pari de l'intelligence de celles et de ceux qu'on a pu rencontrer, à qui, dans notre vie, on a pu parfois dire des bêtises, et qui à un moment seront suffisamment intelligents pour décider de réfléchir par eux-mêmes et faire le constat qu'on peut penser peut-être différemment.
Amen, amen. Ça aussi, on m'avait dit, fais attention, le Yetzer Hara, il te fait tomber, mais quand t'es par terre, il n'arrête pas. Après, il veut te piétiner, tu dis, tu ne remonteras pas. Donc fais attention. Je lui ai dit, ça va, c'est pas comme vous dites, avance, ça va. Te laisse pas piétiner après. Ravi du Lemel, je vous remercie. Et je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonsoir à vous.
Shabbat shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat shalom. On continue notre réflexion sur la paracha de la semaine. Donc on est dans Réé. Et Ré commence dès le début avec une vraie interpellation. C'est-à-dire que Ré, en fait, en hébreu, ça veut dire voix. Mais voix quand on parle à une personne. Et ensuite, la phrase continue au pluriel. Donc, en fait, les sages y ont vu la manière qu'a de communiquer Dieu avec les hommes en parlant à tout le monde, mais en fait, finalement, à chacun d'entre nous.
Oui, effectivement, mon cher Bernard, donc on est sur Parashat Re'e. On va s'interroger sur la formulation du premier verset de la Parashat. Tu me dis la chose suivante. Re'e, Hachem s'adresse par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu au peuple juif. Re'e, voix, il s'adresse au singulier. Anochi, noten lifnechem, je donne devant vous, ayom aujourd'hui, la bracha et la klala. La première chose dans ce qui interpelle dans ce verset, c'est que le verset est adressé à chaque personne au singulier, mais ensuite on nous dit que ces paroles, c'est ce choix de la bracha, de la bénédiction, de la klala, de la malédiction, il est mis devant vous. Alors le Kliyakar, l'élève du Maharal de Prague, s'interroge donc sur cette formule, il dit la chose suivante. Il dit, on constate d'abord qu'effectivement ici on s'est adressé à un particulier. Et ensuite, après, effectivement, on a mis les choses au pluriel. Pourquoi ? Parce que nos Chachamim, nos sages, dit le traité Kiddushin à la page 40b, que c'est une règle intangible et générale. Chacun doit considérer que le monde est moitié coupable, moitié innocent, moitié en faute, moitié innocent. Et que si l'individu fait une mitzvah, eh bien, il peut complètement faire pencher la balance et la balance du monde du côté du mérite. Et c'est la raison pour laquelle, ici, dit le Kliyakar, on s'est adressé à chaque individu. Regarde, c'est toi qui vois. Une fois que tu vois du point de vue moral, spirituel, intellectuel, du point de vue de ton jugement, que chacun de tes actes, eh bien, ça aura un effet sur la collectivité. Les Kulchem, à vous tous. Et donc, ce sujet-là, il est rappelé ici dans cette paracha, pour nous dire que ces serments qui avaient fait auxquels les Bnei Israël sont soumis, donc sur la montagne des Grisim et la montagne de Eval, où là, les Bnei Israël deviennent Arevim, eh bien, là, ici, va s'introduire une nouvelle règle, qui est la règle de la Arevout. La Arevout, c'est finalement le fait que nous sommes tous débiteurs les uns pour les autres. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est une des règles les plus fondamentales de la collectivité juive, c'est que je ne suis pas seul. Je suis finalement lié à la chaîne d'appartenance du peuple juif. Et chacune de mes pensées, chacun de mes actes, chacune de mes paroles a un poids, non seulement pour moi, mais pour la collectivité. C'est ce que dit la Gemara dans Kiddushin. On peut faire pencher le monde du côté du tov, du côté du mérite, ou au contraire du côté du riouv, au contraire du côté de la destruction. Et donc il y a ici, en quelque sorte, une mise en garde sur la responsabilité qui est la nôtre. Et quelle est cette responsabilité ? Cette responsabilité s'appelle la arevout. C'est-à-dire le fait que nous sommes débiteurs les uns pour les autres. Et le Kliyakar va continuer et va dire quelque chose qui en apparence est un petit peu terrible, mais qui est une réalité. C'est qu'il est parfaitement possible qu'un individu paye pour les fautes qu'il n'a pas fait, mais que quelqu'un d'autre a fait. Alors pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il avait la possibilité de condamner son comportement, ou il avait la possibilité de se démarquer de son comportement, il avait la possibilité pour lui-même de se démarquer complètement de certains types de comportements. Comme il ne l'a pas fait, il est considéré donc comme débiteur. Et ce qui est intéressant dans cette paracha, c'est qu'on voit apparaître cette notion de responsabilité avec R majuscule, cette notion de responsabilité fondamentale. Je suis responsable pour moi, mais je suis responsable pour le klal, pour l'ensemble du peuple juif. On donne toujours cet exemple de l'homme qui creusait un trou dans un bateau et dit qu'il y a le problème, j'ai envie d'avoir de l'eau dans ma cabine, là où je suis assis, j'ai envie d'avoir un petit peu de... Oui, mais tu creuses un trou dans le bateau, tu fais couler le bateau. Et donc ici, chaque personne qui finalement oublie qu'elle appartient à un peuple et qu'elle a une responsabilité individuelle, mais en même temps une responsabilité collective, eh bien elle est comparée à cette personne qui creuse un trou dans un bateau et qui s'imagine que finalement elle va profiter de l'eau qui rentre dans sa cabine. En vérité, elle est en train de faire couler un bateau. Alors la question qui se pose évidemment, c'est pourquoi cette interpellation, on la lit toujours à l'orée, proche, ou peut-être même parfois même, alors que le mois de Elul est déjà commencé. D'accord. Cette fois-ci, on va lire cette paracha le 30 Av, mais on est à Rosh Chodesh Elul. Donc on est juste avant le mois de Elul. Alors, il faut savoir que cette interpellation, elle est d'actualité. Il y a toujours un lien entre la paracha et l'actualité, même l'actualité des Chagim, des fêtes. Cette interpellation sur notre responsabilité, sur notre Bechira, sur le fait que nous sommes des êtres choisissants, c'est ce que nous sommes, nous les êtres humains, nous sommes les seuls qui pouvons dire oui ou non. Cette interpellation-là, elle vient à point nommé. Lorsque on aborde le mois de Elul. Pourquoi ? Parce que le mois de Elul est un mois pour lequel Yaakov Avinu a prié Hachem pour demander que ce mois bénéficie d'un influx positif pour le peuple juif, que ce soit le mois de la Teshuvah. Ani le Dodi et Dodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est les initiales de Elul. C'est un mois dans lequel les portes de la Teshuvah sont ouvertes. C'est le mois de la Rachamim, de la miséricorde, du Chesed, de la bonté. Toute personne qui fait tshuva n'a qu'à se baisser pour recevoir, en quelque sorte, une aide spirituelle particulière. Et donc, il faut lire aussi l'interpellation, qui est donnée par ce verset aussi au niveau du Midrash, c'est-à-dire au troisième niveau de lecture. Le Midrash va dire la chose suivante. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Il va dire, vois, toi, le juif, ce que moi, Moshe Rabbeinu, je suis devenu l'ifnechem devant vous par suite de choix positifs successifs. Et là, Moshe Rabbeinu va dire quelque chose, d'après le Midrash, qui est extraordinaire. Il dit, finalement, on était tous sur la même ligne de départ. Moi, j'ai grandi dans le palais de Pharaon. J'aurais pu rester dans le palais de Pharaon, j'aurais pu rester un Égyptien. J'étais destiné à devenir l'héritier de la couronne, j'aurais pu devenir un pharaon égyptien, j'aurais pu devenir un noble égyptien. Le peuple juif, il faut le rappeler, quand il est sorti d'Égypte, effectivement, avait gardé un certain nombre de coutumes, mais les anges ne voyaient pas bien la différence entre les Égyptiens et les Juifs. Allelu of de Azera, Allelu of de Azera. Ceux-là servent les idoles et ceux-là servent les idoles. C'est ce que les anges vont dire à Hachem lorsque les Juifs traversent la mer Rouge. Et Hachem va répondre, non, les Égyptiens l'ont fait volontairement, les Juifs l'ont fait sous la contrainte. Leur Neshama, leur partie divine, elle, a encore cette présence en eux et ce refus d'adhérer complètement à l'idolâtrie. Donc les Bnei Israël sont sauvés. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il interpelle le peuple. Et cette paracha, elle nous interpelle. Et elle dit, regardez ce que toute personne qui étudie la Torah, toute personne qui travaille ses midot, qui affine son caractère, qui va chercher à se rapprocher d'Hachem, qui va chercher à grandir sur le plan psychique, mental et spirituel. Regarde ce qu'elle va devenir. C'est ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Regardez-moi et regardez ce que je suis devenu par suite de choix successifs positifs. Et regardez tous les tzaditim du peuple, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils ont donné au peuple par suite de choix successifs. Et là, il y a une interprétation qui est complètement d'actualité. Vois, toi, le juif qui est devant maintenant le mois de Elul, ce que tu peux faire lorsque tu donnes le meilleur de toi-même sur le plan psychique, mental et spirituel. Tu peux complètement révolutionner le monde dans lequel tu vis. Tu peux révolutionner ton monde, le peuple juif, parce que comme on l'a dit en première partie, tu as une responsabilité vis-à-vis du peuple juif. Ce que tu fais, ça n'a pas d'incidence que pour toi, ça a une incidence aussi pour l'ensemble du peuple. L'ifnechem, c'est ce qu'on a dit dans la première partie de notre entretien. Et donc, il y a ici une interpellation, qui est une interprétation pour nous dire, vous avez la béchira, vous avez le choix, vous pouvez choisir, mais une interpellation pour nous dire aussi, vous êtes responsables les uns des autres, la harevut, c'est-à-dire cette responsabilité collective, la responsabilité des uns vis-à-vis des autres, eh bien, elle agit sur le plan individuel, elle agit sur le plan collectif, et elle doit être une occasion pour nous de réfléchir finalement sur les incidences de nos actes. Surtout dans une période comme celle-ci, qui est une période où la tshuva est là, où elle nous est offerte comme un cadeau. Alors la Torah continue, et elle va nous donner les moyens de parcourir ce chemin. Un petit peu plus loin, donc la Torah continue, et là les premiers commandements de cette paracha sont des commandements qui nous enjoignent de détruire les lieux d'idolâtrie, de détruire les temples idolâtres, de ne rien laisser finalement, debout en ce qui concerne les lieux d'idolâtrie. Par contre, concernant les lieux où Hachem est servi, alors non, ces lieux-là, ou ce lieu-là, le Beth Amikdash, le temple que Hachem aura choisi donc pour être servi, pour révéler sa présence, ou les lieux dans lesquels les Bnei Israël donc auront décidé donc de prier Hachem, ces lieux, par contre, cela ne doivent jamais être détruits. Et donc là ici, on a ici une première indication. Comment est-ce qu'on s'en sort finalement à exercer sa responsabilité de manière positive? Comment est-ce que finalement on commence à avancer dans la vie finalement? On a en nous finalement des souvenirs. On a des souvenirs, on a des pensées, on a des attirances pour des choses qui sont négatives. Et on a en contraire des pensées positives, on a au contraire une capacité de croire dans l'avenir, une capacité d'optimisme. Alors la Torah vient et nous dit, regardez, vous avez en face de vous des lieux de culte idolâtres, des lieux de culte d'Hachem. En vous, c'est la même chose aussi, vous avez un Yetzer Hara, un Yetzer Hatov, un mauvais penchant, un bon penchant. Alors faites attention, ce qui est mauvais, ce qui est destructeur, sur le plan psychique, mental, spirituel, ce qui interdit une bonne relation à l'autre, ce qui interdit une relation féconde, productive, qui fait grandir avec Hachem, ce qui permet à l'homme de grandir, alors ça, vous devez le laisser debout, ça, vous devez le valoriser. L'individu, il doit en permanence avoir des pensées, avoir des réflexions, être capable de valoriser tout ce qui, finalement, nous permet de se rapprocher d'Hachem. On vit dans un monde dans lequel on vit entouré du mépris vis-à-vis de tout ce qui est spirituel. Et là, finalement, il y a une indication qui nous est donnée. Tout ce qui est méprisant à l'égard du spirituel, éloignez-vous-en. Enlevez-le de votre horizon. Ne restez pas avec des lectures, avec des fréquentations, avec finalement un certain respect, une certaine dévotion pour tout ce qui incarne le mépris d'Hachem, Chas v'Shalom, ou le mépris de la Torah, ou le mépris des valeurs de la Torah. Ça, abet et abedoun, comme dit le verset, vous devez le faire disparaître. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la construction personnelle, tout ce qui est de l'ordre de la construction des lieux de culte, c'est-à-dire des lieux qui permettent à l'individu d'avancer, alors ça oui, ça vous allez le garder, et ça vous allez le cultiver. Voilà donc finalement ce que nous dit cette paracha au travers de cette interpellation sur la responsabilité. En fait, elle nous ouvre à l'horizon, à la fois sur le mois de Elul, mais en même temps sur les capacités extraordinaires de ce mois, et en même temps sur les enjeux et les moyens dont nous disposons pour avancer, pour nous construire durant ce mois de Elul. Donc à toutes et à tous, Shabbat Shalom, et que nous sachions profiter comme il le faut donc de ce mois-ci.
Merci Rav Mordechai Biton, et je vous souhaite une seule chose, mais elle est très importante, Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à tous. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Kabbalat Shabbat. Excellente soirée à tous et Shabbat Shalom.